Nous sommes en direct avec Esther Salmona. Esther Salmona, poète, poétesse, qui crée des sons que nous allons écouter d'ailleurs, des différentes, toute une palette de sons et de créations. Tu es aussi enseignante dans tout un tas d'endroits, notamment à l'école du paysage à Versailles, ainsi qu'aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Bonjour Esther, bienvenue dans les studios à Manosque.
Bonjour Mathéo, merci de me recevoir.
Nous allons donc parler de création et nous allons commencer par un texte à publier dans une revue de poésie contemporaine qui s'appelle Nioc, poésie, revue de poésie qui d'ailleurs n'est pas très loin de chez nous puisque nous sommes à Manosque et qui sont pas très loin, à Volx je crois.
C'est ça.
Tu voulais commencer par nous lire ce texte?
Oui, je vais commencer par voilà, une espèce de plongée directement dans...
On commence par le vif du sujet, directement avec un texte de poésie.
C'est ça, qui s'intitule « Sylve » avec un « i ». Poème forêt 1. Une longe. Aucune vérité ne sera donc possible. Les réels ne se rencontrant pas. Seules les membranes ont, par flottement, frottement, contact, capacité de transmission, écho venant du plus lointain, du plus profond. La remontée est traduction, potentiel renouvelé à chaque instant. Ce qui advient est évidence, non simple fiction écartelée. Y rentrer ménage une espace fine, comment s'y déplacer si ce n'est en sortant constamment de l'énonciation, hors jeu, hors scène, mouvement contre les débuts, phrases. Écriture aveugle, paroi ôtée, ouvragée, ourlée, ouverte. Les débuts, une longe, point zéro. Cela aurait pu être un bloc, manière de grille imprévisible. Foyer de l'ombre, profondeur resserrée, dépôt en attente, ou encore, tamis. Pensée, saturation. Comme une écriture. Sur une plage, un granulat, y revenir. Comment cela bouge sans aucun mouvement, ne reflète rien. À cette distance, la plage est libre. Quelque chose tourne, s'étire, va se déployer. L'image ne vient que par l'oreille. L'ombre dépasse tout, résonne, est déjà passée par la carte ou l'espace. Le calme est ici sobriété, passage, permission, sans existence autour attendre. Venir de loin amène une réalité plus que cruelle. Aiguille, lit, pli, plisse, ramène, vortex auriculaire. L'image vient après. Ce qu'elle charrie, laisse, traîne, s'interrompt. L'espace n'existe pas, le temps est pincement, ralliant toute dimension, sans cesse condensée en un point, par absence cumulée, sédimentation spectrale, superposée sans poids, imprime une métamorphie inverse.
Merci Esther. C'était merci. Donc un extrait de ce texte Sylve.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce texte? Comment il est né?
Oui, c'est un texte en fait qui a été créé à partir de notations, de textes plus petits, qui ont été écrits avec ce que j'appelle le principe de l'écriture d'écoute. C'est-à-dire que j'écoute des flux audio en temps réel, qui ont été mis en place, voilà, je vous expliquerai, par un laboratoire de recherche en art sonore. Et j'écris en essayant de traduire, ou ce que j'appelle plutôt transduire, ça veut dire que ce n'est pas une description des sons que j'écoute. Je m'en éloigne, mais je m'en suis éloigné au fur et à mesure. C'est-à-dire que mes premiers essais d'écriture d'écoute étaient assez littéraux, vraiment. Je nommais avion quand j'en entendais un. Et au fur et à mesure, l'écriture, enfin la manière de qualifier, la manière de décrire ce que j'entendais, c'est plus des sons. En fait, ça passait par mon oreille, c'est devenu des espèces de vibrations, du signal. Et ça, c'est, voilà, c'est toutes sortes de métaphores assez abstraites. Et là, en fait, c'est un site que j'ai créé qui s'appelle PZ et qui est principalement recueille en fait cette écriture d'écoute. Et ce texte, il a été mis en écriture à partir de plein de textes qui sont issus de l'écriture d'écoute. Donc sources sonores viennent vraiment du monde entier.
De partout.
De partout.
Alors PZ, ça veut dire point zéro.
Oui, point zéro. Alors ça, c'est un site que j'ai créé il y a peut-être 6-7 mois. Et c'est une commande artistique d'un laboratoire de recherche en art audio qui s'appelle Locus Sonus et qui s'est associé à un projet européen qui s'appelle Acoustic Commons. Je vais peut-être présenter un tout petit peu le but d'Acoustic Commons. Enfin, tout ça, tout ce dont je vais parler, il va y avoir sur le site, je pense que tu vas mettre pas mal de liens parce que c'est... Je me suis aperçu en préparant l'émission que c'était très lié au réseau Internet, avec des, quelque chose qui est en temps réel, toujours, avec des liens de site en site.
On mettra les liens des sites sur notre site, justement, Internet,
oui.
fréquencemistral.com, quand cette émission sera postée d'ici la semaine prochaine.
Oui, je pense que c'est un peu, même, ça paraît un petit peu touffu, donc Acoustic Commons. Je lis un petit peu la présentation. C'est une collaboration entre 4 organisations artistiques et des partenaires. En fait, il y a des micros qui sont placés, des micros ouverts, donc des micros qui transmettent en direct le son sur des sites spécifiques de valeur patrimoniale, culturelle ou naturelle. Donc c'est accessible. Hein, on tape Acoustic Commons et on peut écouter ces sons. Donc il y a une carte interactive, des émissions de radio spécifiques, des résidences d'art sonore. Et en fait, c'est cette collaboration entre Acoustic Commons et ce laboratoire de recherche en art audio, qui fait partie de mon cursus étudiant. Ils m'ont commandé un projet artistique. Et moi, j'ai vraiment voulu concentrer. Point zéro, pour moi, c'est vraiment une espèce de base, comme une tabula rasa. Donc c'est un site tout simple sur Blogspot. Et c'est, je me sers vraiment d'Internet pour pouvoir... ce n'est pas seulement de l'écriture d'écoute, mais il y a des images, des dessins. Je me place dans certains endroits et je déploie une sorte de station de perception où je fais des photos avec des verres déformants, des choses comme ça. Et c'est une espèce de, une manne, quelque chose qui est un petit peu sédimentaire. Et donc ça va dans plusieurs directions. Et ce texte, Sylve, qui va être publié dans Nyok, c'est un peu le résultat de ça. Voilà. J'espère que c'est pas trop touffu.
En tout cas, pour y être allé sur ce site, on peut y errer. On peut faire de l'errance.
C'est parfait.
Et alors, Locus Sonus, tu étais en train de nous en parler. Il y a eu aussi un événement dans la région, en Provence, pas très loin d'ici, toujours du côté de Fort-Calquier. C'était il y a peu de temps, c'était le mois dernier.
Oui, c'était le 1er mai. Donc, ce sont des laboratoires qui s'associent. Donc il y a ce qu'on appelle des sound camps, des camps sonores. Et connaissant le site des Magnans qui appartient à Longomaï, à Fort-Calquier, qui est vraiment un endroit très ouvert sur le paysage.
Qui est une sorte de conglomérat de plusieurs gîtes en milieu de la Provence.
Oui, avec des horizons incroyables.
On voit très loin, c'est vrai. On voit la montagne de Lure, notamment.
Oui, voilà.
La vallée de la Durance.
Oui, le plateau de Valensole.
Pas le plateau de Valensole.
Ça, il faudrait faire une description à 360 degrés de tout ce qu'on voit à partir des Magnans. Ce serait fantastique.
Et donc, ça vous a inspiré pour... vous, les gens qui étaient en résidence, ça vous a inspiré pour ces sons?
Oui, il y avait des artistes en résidence dans ce laboratoire. Notamment, il y a un artiste sonore qui s'appelle Ludovic Landolt, qui lui a travaillé non pas sur le site des Magnans spécifiquement, mais qui, en faisant des recherches sur Fort-Calquier, a eu vent de l'existence du carillon, qui est un carillon un carillon d'extérieur, qui a convoqué un joueur de carillon pour jouer des mélodies provençales et qui lui-même s'est emparé de l'instrument pendant un petit quart d'heure. Pour improviser. Et ensuite, on a échangé ensemble sur où placer ces micros. Donc, moi, je vis à Fort-Calquier, donc à partir de chez moi, il y a une résonance intéressante, mais il y a un autre endroit, il y a un mur. C'est un phénomène acoustique assez classique, mais très impressionnant. Dans Fort-Calquier, il y a un mur, on a l'impression que le son du carillon émerge de ce mur. Et donc, il a placé comme ça 3 points d'enregistrement et il a fait un mixage avec... toute cette partie sonore. On peut peut-être l'écouter. Ça dure une petite minute.
Comment il s'appelle ce son?
C'est Sound Horizon. Ludovic a vraiment créé Alors, c'est Ludovic Lindant. Alors, on va le trouver.
Peut-être c'est aussi possible d'expliquer le principe de cette résidence, c'est-à-dire qu'il y a des micros qui sont ouverts à travers le monde en fonction des fuseaux horaires. Peut-être dire deux mots là-dessus.
Sur le laboratoire Locus Sonus.
Oui.
Oui, en fait, au départ, c'était un post-diplôme de recherche en art audio, audio en espace, audio en réseau, entre la Villa Arson et l'école d'art d'Aix-en-Provence. Moi, je faisais partie de la première promotion. On était trois étudiants et on était à la fois artistes, chercheurs et enseignants. Et voilà, ça a duré 2 ans et c'est lors de ce post-diplôme que j'ai développé ce que j'appelle l'écriture d'écoute, donc vraiment écriture en temps réel avec écoute en temps réel. Et pour moi, je dirais que j'ai forgé les débuts de ce qu'est mon écriture maintenant, c'est-à-dire une écriture par l'oreille, cette histoire de transduction et de traduction, et tout un travail un petit peu sur une forme d'étrangeté dans la perception, une espèce d'hyperperception ou une hypoperception, une manière de filtrer en fait les informations. Alors parfois, l'écriture peut sembler un petit peu abstraite, un petit peu dense. Il y a plein de marqueurs grammaticaux, voilà, des phrases qui perdent un peu leurs oripeaux. Mais finalement, les retours que j'ai, c'est qu'il y a une espèce de... Alors, pas forcément de musicalité, mais disons une sonorité. Pas forcément en termes d'allitération, de sons qui se rassemblent, mais quelque chose où finalement... je crois que ça oblige un petit peu à lâcher prise sur le sens et à se laisser un peu emporter. Peut-être à l'instar justement de ces flux audio, de ces flux sonores. Voilà. Mais peut-être qu'avant d'écouter le carillon, qui est très précis et reconnaissable, on peut peut-être plonger un peu dans l'abstraction de ces sons. Voilà, peut-être qu'on peut écouter d'ailleurs, parce que, ah oui, par rapport à Acoustic Commons, il y a cette idée que il y a quelque chose de l'ordre de l'écologie, c'est-à-dire qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on peut entendre l'évolution de l'environnement par le son. Mmh. C'est souvent des marqueurs, des mesures scientifiques, des choses comme ça, des photos aériennes, mais par le son, avec une écoute qui devient finalement très très fine de certains chants d'oiseaux, on peut mesurer par exemple le changement climatique. Et je pense que c'est aussi c'est cette frontière-là entre le scientifique et l'artistique que je trouve vraiment passionnante, en fait. Et plus ça va, par exemple, à l'école de paysage, les étudiants, ils sont obligés de rassembler, de synthétiser énormément de données et en même temps de mettre en avant leur subjectivité et des choses de l'ordre de la création. Et moi, cette frontière-là, elle m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est un peu la frontière entre la matière et la non-matière. Enfin, c'est vraiment des choses assez fines. Donc, ce que je vous propose d'écouter, c'est un fichier qui s'appelle Cicadas. Et c'est un travail, en fait, sur l'émergence du moment de reproduction de cigales tous les 17 ans. Et c'est dans le Maryland, dans l'état de Patapsco Valley. Dans le parc d'État de Patapsco Valley, dans le Maryland, aux États-Unis. Et voilà, c'est le saisissement d'un événement. Évidemment, il y a 17 ans, quand elles ont émergé, Locus Sonus n'existait pas. Mmh. Et là, maintenant, il y a une technique qui permet d'inviter en fait ces cigales vers nous. Alors, on ne va pas forcément entendre de cigales là où on en est, on va voir. C'est une captation d'hier soir.
D'accord. Mais 24 jours, 22 heures, il y a marqué.
C'est ça.
On écoute ça. Voilà, pour cette captation sonore, on entend quelques bruits d'oiseaux aussi derrière, tout un tas de choses. Ça date donc d'hier, c'est ça que tu nous disais, Esther.
Oui, en fait, ce qui est intéressant avec, enfin, qu'on va sur le site d'Acoustic Commons, c'est qu'on on assiste aussi à des phénomènes journaliers. Il y a des phénomènes sonores qui arrivent, qui repartent. Et en fait, j'arrive toujours pas, pourtant ça fait depuis fin 2005 que j'ai rencontré les streams, mais c'est un petit peu insaisissable. C'est-à-dire que c'est le son d'un autre lieu, qui peut être à côté, mais aussi très éloigné, avec des qualités sonores diverses et variées. Et le fait que ce soit en direct, c'est un petit peu compressé, mais c'est relativement de bonne qualité, ça augmente l'espace, ça augmente l'espace de l'écoute, mais c'est très difficile à définir. Par exemple, c'est toujours battonnant, et en fait, le mettre avec des haut-parleurs de bonne qualité dans son propre espace, ça double notre espace, alors que c'est que sonore. Et ça fait quelques années maintenant que j'essaye de saisir ça avec des mots ou avec des sortes de, je sais pas, des sortes de concepts semi-philosophiques que j'appelle par exemple l'évidence avec un A. Mais l'existence de stream pour moi a été extrêmement fertile, parce que c'est quelque chose qui est toujours en creux, qui est toujours creux et qui avance, qui peut pas arrêter. Et une des comparaisons que j'ai faites pour mon mémoire, c'est ça me fait penser au requin qui ne peut pas s'arrêter, parce qu'il est à la fois extrêmement sophistiqué et extrêmement archaïque, et donc s'il veut avoir de l'oxygène dans son corps, il doit toujours avancer. Et l'endroit où l'aileron rompt le miroir de la mer, comme je le dis dans mon mémoire, en fait, c'est fascinant. Ça ne s'arrête jamais. Et moi, j'essaie de le saisir, donc par l'écriture, par des photos. Et ça représente comme une métaphore d'un flux de pensée multiple, avec ses cassures, ses brisures, une espèce de questionnement constant sur ce qu'on est en train de percevoir en temps réel. Ça a modifié aussi ma pratique pédagogique, par exemple.
En parlant de pratique pédagogique, tu as aussi fait un atelier avec les élèves du lycée Alpes et Durance. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui. Alors, pour faire le lien, le glissement de la perception donc à la pédagogie, pour moi, le point d'articulation, c'est l'écoute. Mais c'est un état d'écoute comme vraiment une pratique active. L'idée, par exemple, que quand je suis avec des étudiants ou des élèves, je ne sais rien, je ne sais plus rien. Alors, c'est pas. D'aucuns pourraient placer le maître ignorant. Je pense pas que je sois ni maître ni ignorante, mais je me mets dans une position de non-savoir. C'est pas vraiment la même chose. Et ça permet, en fait, aux personnes avec lesquelles je travaille de. Ben voilà, elles deviennent petit à petit un peu dans une liberté d'associer des choses qui ne sont pas forcément à la base des choses qu'on peut associer facilement.
Et ça marche avec des élèves de lycée ?
Ça a super bien marché. En fait, là, c'est le lycée Alpes et Durance. C'était avec des secondes et des premières, et c'était une vraie collaboration. Moi qui travaillais avec le Centre international de poésie Marseille.
Oui, le CIPM qui est basé à Marseille.
À la Vieille Charité. Voilà, ça fait peut-être un peu moins d'une dizaine d'années que je fais des ateliers, principalement en collège, mais depuis que je vis à Fort-Calquier, on essaie de mettre en place des collaborations avec des établissements plutôt en région. Et là, ce qui est nouveau et ce qui a été très fructueux, c'est une collaboration avec le Parc naturel régional, le PNR du Queyras, avec Christophe Gérer qui est responsable des publics. Donc il y a fait je me souviens des noms. En fait, ces élèves, ils passent leur bac en 4 ans, parce qu'ils ont une sorte de double métier. Ils se préparent au métier à la fois de moniteur de ski, soit fondeur dans ski de fond et ski alpin, et puis ossature bois et menuiserie. Non, c'est pas menuiserie. Il faudrait que je me corrige, mais c'est pas. Voilà.
On retrouvera.
Je retrouverai. Ouais, ouais.
Pour les gens intéressés.
Et donc on a fait une sortie au lac de Roux, près d'Embrun, là où est situé le lycée. Et pendant une journée, il y a eu trois ateliers. Un premier atelier au centre de documentation, avec des sorties, des initiations à une forme de guidage, par exemple les yeux fermés, pareil, pour un peu se préparer à des histoires de perception un petit peu inhabituelles. Il y a eu la sortie voilà, qui a duré toute la journée, avec une marche d'approche plus ou moins sportive. Et puis moi, j'ai installé sur une table de pique-nique autour du lac une espèce de bureau improvisé avec un rouleau de caisse enregistreuse. Et il venait vers moi s'il le voulait. Je donnais des instructions. Voilà, ça a été jusqu'à courir tout autour du lac, un côté un peu sportif, s'essouffler et ensuite arriver au bureau, mettre des mots et repartir comme ça. Il y a une sorte de tentative d'épuisement à la fois du corps et du paysage. Remettre en jeu cette histoire de guidage, mais cette fois sur un sol inégal. Bon.
Et donc, est-ce qu'on peut en écouter un extrait de cet atelier ?
Oui, j'ai fait une pêche en fait de ce que les étudiants, ce que les élèves ont écrit. On a mis ça sur un grand ruban. Il y a eu un vrai travail de plastique après. Donc, je vais vous lire quelques phrases, quelques extraits. Mon éducation a servi à carver et à faire un freinage avec ma soie. La pensée est un instant charnière. La raboteuse dépouille la formule de perception. Je jouais au foot quand le ballon m'arrive à la gorge. Une solution valable qui arrive à ma pensée, une éducation modifiée qui est arrivée à mon esprit. Je pulvérise l'arrivée et décolle au hasard. Éducation accidentelle pour un arbre. La courbe du graminé s'évapore, l'air est à moitié frais, il y a une ambiance d'usine qui a l'air dangereux, et une ambiance de cour avec une imitation de bruit. La perception de valeur de la mortaise dans le bois est un milieu sévère et dangereux. L'abri qui protège le petit trottoir est une bonne solution pour notre pensée sous la pluie. Mon éducation dangereuse a servi à carver et à mettre de l'angulation avec l'expérience et les leçons accidentelles nuancées de couleurs et odeurs de bois malgré le danger. Sensation de vide dans les graviers. Les ombres nous modifient. Il fait chaud. On s'enfonce dans l'éducation. Il y a du devers dans le tonneau du bruit. Ça va éclater la volige. 10 minutes pour s'identifier, pour disparaître dans sa forme. Une pensée violette au cœur jaune jaillissant du sol comme celle dans notre tête. Je suis le tapis d'aiguille de mélèze, tout délicatement disposé dans la forêt. Je suis petit, sol douillet qui abrite la cime du mélèze au bord du lac de Roux. Vision sur le paysage qui m'entoure, le silence me fait valser. Le chant des oiseaux me berce ainsi que le vent qui me caresse la peau, qui abrite les explosions de fleurs multicolores aux abords du lac de Roux. Je m'identifie à l'eau qui reflète le paysage et qui me fait revenir sur terre. Je suis la montagne. Quelle agréable nouvelle de voir de nouveaux visages à l'aide de cet ami, le vent. Par millions, des visages arrivent. Avant d'arriver et d'ouvrir les yeux, nous pouvons imaginer plein de choses. Une petite pente devient une falaise, un caillou devient rocher. Enfin arrivé, nous sentons l'appréhension du vide, de l'endroit, de ce qui nous entoure. Enfin, nous trouvons une image, mieux que celle de la télé. Nous sentons l'air, entendons les oiseaux, les arbres qui sont là depuis plus longtemps que nous, et pourtant, ils ont l'air ensommeillés. Les rambardes de bois se fondent dans le paysage, le château devient juste majestueux. Nous pouvons tellement rester longtemps à décrire le paysage, le détailler. Il y aura toujours un mystère.
Merci, Théa Salmona, pour cette lecture. Ça a l'air quand même d'être des étudiants en menuiserie où il y a un rapport avec le bois. Il y a quelque chose de cette matière et puis même des mots assez techniques qu'on retrouve aussi.
Oui, ça c'est une demande en fait de ma part de me livrer et de m'expliquer ou de nous expliquer la définition des mots qu'ils emploient pour à la fois rentrer dans leur champ professionnel, leur futur champ professionnel, et en même temps amener ces mots-là dans le paysage et faire en sorte que ces mots-là fassent partie du paysage. Le titre de l'atelier c'est « Chant tourné ». Et c'est le sous-titre, c'est le paysage comme lieu d'écriture. Voilà, il y a aussi pas mal de choses sonores, mais finalement tout est un petit peu entremêlé.
En parlant de choses sonores, il y a aussi un stream qui est lié à cet atelier qu'on peut écouter ou pas.
Non, mais ça aurait pu.
Ça aurait pu.
C'est-à-dire, j'ai pas encore le matériel pour déployer.
Un peut-être on peut écouter autre chose pour les auditeurs, oui, auditrices, de découvrir un petit peu plus
bien sûr
ton travail.
Ce que je te propose, Mathéo, c'est d'écouter deux extraits de stream. Un que j'ai pris hier à peu près à la même heure que les cigales, et un autre ce matin, juste pour pouvoir éprouver la différence d'ambiance, et qu'on pourrait se faire accompagner par le stream à peu près tout le temps. C'est un peu un piège.
D'accord. Alors, on écoute.
C'est...
Vous retrouvez dans des
papiers... Londres.
Ça se passe à Londres, ok, et ça s'appelle ?
Et c'est Rotherhite.
Rotherhite, London, il y a 24 juin et 25 juin. On écoute celui d'aujourd'hui ?
Ce matin, il était merveilleux, extrêmement clair.
Celui de ce matin, 9h. C'est un extrait de Londres ce 25 juin à 9h. On va écouter aussi un tout petit extrait de Londres 24 juin, donc c'était hier soir à 23h. Les rues de Londres, hier soir, aux alentours de 23h. quelques mots sur les sons qu'on vient d'écouter. À savoir que c'est pas forcément une évidence d'écouter ce genre de son à la radio. On a plus l'habitude de la musique ou de la parole. Et là, on est dans l'ambiance, presque dans la carte postale vivante. C'est des choses qui sont beaucoup moins habituelles dans l'écoute radiophonique.
Oui, 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 ça force à une écoute bien particulière. Ça crée une forme d'écoute particulière. En fait, ce côté-là un peu abstrait et relativisé, quand on regarde un petit peu les sites et qu'il y a des sortes d'explications de situations. Là, par exemple, il y a même des choses assez intéressantes en termes de description. Là, ce qu'on vient d'entendre à deux moments différents, c'est décrit comme les sons quotidiens d'une arrière-cour à Loughborough Junction, ouais, dans le sud de Londres. Une petite parcelle d'arbres et de végétation entourée de jardins, de bâtiments, de routes, de voies ferrées. Il y a un projet de réensauvagement ponctuel sur une parcelle accidentelle laissée entre deux lotissements, clouée à l'arrière de la dernière maison en terrasse, comme une pièce non résolue du jardin planétaire de Gilles Clément. C'est un champ expérimental de commun acoustique. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est entre le paysage et le son. La recherche. Bruit de poule. Cours d'école à proximité, à la récréation. Pub Cambria. Maison et arrière-cour attenant. Voisin jouant de la batterie dans son hangar. Circulation. Avion à l'approche de l'aéroport international d'Heathrow. Troglodyte, palombe, chardonneret, merle, corneille, pie et tourneau. Autres oiseaux, surtout au printemps. Les abeilles, écureuils, sirènes, hélicoptères, sons domestiques. Donc,
ça, c'était le premier son, hein, qu'on a écouté. Je ne sais pas si tout le monde a réussi à décortiquer l'ensemble de ces existences. Mais en tout cas, ça, être accompagné d'un texte aussi, ça permet d'ouvrir l'imaginaire.
C'est ça, de situer. Quand on regarde sur le site de Acoustic Commons, c'est vrai qu'il y a en général moins de sons urbains, mais de temps en temps. Et on finit par se familiariser. Ça prend une teinte comme ça, comme une espèce de compagnon. Moi, je peux m'en servir, par exemple, pour écrire. Pas forcément pour être dans l'écriture d'écoute, mais ça apaise quelque chose dans mon cerveau, parce qu'on n'a pas tous un fonctionnement cérébral identique. Voilà, je suis beaucoup dans ces choses-là en ce moment, et je m'aperçois que cette espèce de fascination pour ces sons comme ça, qui ne sont pas composés pour mon écoute, qui sont pas volés non plus, mais dans un périmètre de captation assez réduit et en direct, ça satisfait comme ça une partie de mon cerveau. Ça l'occupe pour que je puisse écrire, par exemple, ou faire d'autres choses. C'est assez étrange. C'est rentré dans ma vie, le stream, d'une manière... Et je ne suis pas la seule. Hein, quand on lit les artistes qui travaillent avec le son et l'ocus sonus, y a une fascination.
Et tu parlais de cerveaux différents, tu parles aussi de neurodiversité, c'est quelque chose qui tient à cœur. Ou en tout cas quelque chose que tu travailles, que tu réfléchis. Alors qu'est-ce que tu entends par neurodiversité ?
La neurodiversité, ce sont des manières dont le cerveau s'est développé, on va dire, différentes d'une forme de norme. Norme parce que c'est la majorité. Et encore, tout ça est en train de se relativiser, c'est-à-dire que c'est à différents niveaux, notamment la perception, l'audition, le traitement du signal, le traitement de l'information, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, on parle beaucoup de spectre, on peut être, se situer à différents endroits sur le spectre du genre ou du non-genre. Et bien là, pareil, je croise beaucoup ça, et notamment de plus en plus dans ma pratique pédagogique, le spectre de cette neurodiversité. Ça veut dire que moi j'ai été diagnostiquée dans cette neurodiversité et je suis en cours d'autres diagnostics en ce moment, non pas pour réduire mais au contraire pour donner des clés de compréhension, pour élargir, mieux gérer, parce que ça génère certaines difficultés, notamment quand on parle d'acouphènes, d'hyperacousie, d'entendre trop, de voir trop, de sentir trop ou entre guillemets pas assez. Ce qui fait que la vie au quotidien, elle est impactée par ça. Et je me suis aperçue, suite à ces diagnostics, mais après plusieurs années de déconstruction, que ma manière d'écrire, la manière dont je percevais, et le fait que j'aille vers la création, c'est complètement lié à cette manière de percevoir. Et dans ma manière d'enseigner et d'écouter aussi. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau pour moi, donc je suis en train Pour moi, la pédagogie de l'enseignement est complètement liée à une pratique d'écoute, une pratique créative. Ça se donne la main. Et le fait d'en prendre conscience, c'est aussi grâce à ce diagnostic. Écouter les expériences des autres. Bon, après, c'est un petit exemple, mais par exemple, j'ai écrit un texte là-dessus, d'ailleurs, que j'ai lu à Manosque, pour les correspondances.
Rencontre de littérature à Manosque.
Oui, pendant les correspondances de Manosque.
Qui auront lieu en septembre cette année.
Oui, c'était il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et je me suis posé à un moment la question de la perception. Et par exemple, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas avoir une main mouillée et j'avais l'impression que mon corps se scindait en deux. Si j'ai la main gauche mouillée, il faut que j'ai l'autre main. Alors ça peut paraître étrange, puis j'ai commencé à interviewer des gens sur leur perception, entre guillemets, étrange. Et ça, c'était bien avant qu'il y ait cette recherche, pour moi, sur la neurodiversité, le trouble du spectre autistique, etc. Ou par exemple, quand j'étais enfant, parler, donc là j'utilise une partie de mon cerveau pour te parler, Mathéo, et pour parler aux auditeurs, pour moi j'ai l'impression d'avoir créé toute pièce, parce qu'elle n'existait pas avant, pour X raisons. Et avant, enfant, il fallait que je comprenne le sujet, que je trouve quelque chose à dire, que je l'inscrive dans une espèce de sphère mentale, et qu'ensuite je le lise avec ce que j'appelle les yeux de mon cerveau. À ce compte-là, j'étais très très loin de rentrer dans la dynamique conversationnelle, donc ça me mettait à part. Et c'est en écoutant quelqu'un par hasard parler de l'autisme et l'intégration il y a quelques années sur le net que j'ai compris que je me suis reconnue. Et en fait, il y a une histoire de reconnaissance. Mais ça me donne une espèce d'écoute très large et que je trouve intéressante à exploiter, où justement il y a un peu une dissolution du jeu. Voilà.
Oui, c'est une manière aussi de se réapproprier soi-même quelque part et de ne pas se faire écraser par les diagnostics, au contraire, se le réapproprier.
Oui, quand on rencontre des personnes qui sont dans une dynamique par rapport au diagnostic, parce que ce ne sont pas des maladies, ce sont des particularités, des divergences ou différences, à l'instar du mot queer qui au départ était plutôt péjoratif et qui maintenant est plutôt laudatif, comment on se réapproprie, comment on retourne ça pour en faire... pas une qualité, pas forcément une fierté, plus que ça, une manière de créer, une manière d'avancer, et du coup de faire avancer le reste de la société.
Et ce mot neurodiversité, c'est un concept qui a été élaboré, ou c'est toi qui l'as trouvé juste, ou c'est quelque chose d'assez courant ?
Alors moi, comme je me renseigne beaucoup autour de ça, je l'entends beaucoup. Il y a aussi neurodivergence. C'est pas du tout des mots que j'ai qui viennent de moi. Moi, c'est évidence ou forcal queer, ou spectroralité. C'est mes néologismes à moi.
C'est un concept qui a été élaboré.
Qui a été élaboré. Ouais, ouais. Et après, il est c'est un peu comme le haut potentiel, maintenant on utilise presque plus surdoué, heureusement, zèbre, ça m'énerve, mais ça c'est personnel et je vais pas l'expliquer ici, mais c'est une... il y a vraiment pas de mots précis qui qualifient, mais je trouve ça super, on s'en approche à chaque fois, il y a un centre un peu vide et ça n'arrête pas d'évoluer, de toute façon, parce que c'est un nuancier, il y a un spectre, et c'est ce qui permet aussi de pouvoir... négocier et vivre dans ce monde-là, quoi. Un petit peu normatif.
Un petit peu, oui, effectivement. Nous allons continuer avec ce voyage sonore et on va rétro-pédaler un petit peu puisque nous allons écouter le son de Ludovic... Ludovic...
comment ? Landolt.
Landolt, voilà. Ouais. Dont on parlait tout à l'heure, autour du Carillon et pour ce projet Locus Sonus, pour cette résidence qu'il y a eu à Forcalquier le 1er mai. Est-ce que tu veux redire quelques mots très rapides sur ce son ?
Oui, oui. Ce que je peux dire, donc, c'est que ça s'appelle Sound Horizon. Et en fait, Ludovic explique sur son site... Donc c'était le 1er mai 2021, une performance sonore au Carillon. C'est le seul en province qui se situe... Au Provence, pardon, province. C'est la parisienne qui revient. Excusez-moi. Au Provence, qui se situe au sommet de la citadelle de Forcalquier. Et l'intérieur de ce qu'il appelle la Ringing Room, c'est l'endroit des cloches, est situé de plein pied et non dans une tour. C'est un fait exceptionnel, et donc ça a inspiré à son projet la dimension de fenêtre sonore. Ça diffuse le son des cloches dans le complexe enchevêtrement d'espaces de la vieille ville. Plusieurs points de captation ont été organisés pour la performance, en intégrant l'acoustique et la géographie de Forcalquier. La devise provençale de la ville résonne ainsi, par sympathie, avec le contexte même du Carillon. Je n'ai pas l'accent provençal. Mais la devise de Forcalquier, c'est plus haut, c'est ça, plus haut que les Alpes. Donc, voilà. Donc il a frappé le clavier à la force des poings. Et voilà, et je pense qu'on va pouvoir l'écouter maintenant. Ouais.
Enfin, à noter qu'à la force des poings, c'est comme ça que ça se joue, un carillon, avec oui. les poings.
Oui, oui.
On écoute ça. C'était le carillon de Forcalquier. Décidément, en ce moment, sur Fréquence Mistral, lors du magazine du Midi, on l'écoute régulièrement, puisqu'il y a quelque temps, on était avec Iris Kaufmann aussi, qui a travaillé sur l'art campanaire, qui nous a fait découvrir le son du carillon. De retour en direct cette fois, aujourd'hui, nous sommes avec Esther Salmona, qui nous parle de ses diverses créations. On a fait plein de détours par l'écriture, le son, la neurodiversité. Où va nous mener cette émission désormais ? Esther, je te laisse la porte ouverte. Tu fais tellement de choses, on ne sait plus par où commencer.
Ben, j'essaye de parler de l'écoute. Qu'est-ce que les points d'articulation centraux ? Ouais, c'est l'écoute, la pédagogie, la perception. Mais justement, je vais rebondir sur cette histoire de... deuil du cerveau. Là, j'ai un projet d'un texte qui va paraître aux éditions M, qui ont été créés par Marie-Laure Alves, qui a travaillé pas mal de temps avec la revue Il Particolare. Puis là, elle a créé sa propre maison d'édition, les éditions M, qui travaille vraiment le rapport entre le cinéma et la littérature, et qui elle fabrique des objets, voilà. Tous les détails sont importants, la matière, moi qui ai fait de la reliure, je suis assez sensible à ça, mais voilà, le grammage du papier, le son du papier, la qualité de l'impression, les toiles, le gaufrage, enfin toutes sortes de qui en font des objets. Voilà, et donc c'est un projet, j'espère qu'il va sortir, je crois que ça va sortir en 2022.
D'accord.
Je voulais parler de ça aussi avec toi, cette histoire du temps, le temps de l'écoute par exemple sonore est incompressible et le temps de l'édition et la publication est... J'adore ce temps, c'est un temps particulier. Voilà. Tu veux peut-être me poser des questions ou je parle un peu de...
Je voulais juste savoir où était située cette maison d'édition, elle est du coin ou...
Entre Aix et Marseille.
Entre Aix et Marseille,
ah,
d'accord.
Ouais. Je crois plutôt à Aix, mais quand on se voit avec Marie-Laure, c'est soit dans une ville, soit dans l'autre. Pas de préférence. Et le point de départ de ce projet, dont la première apparition s'intitule MN, ça vient justement de cette particularité que je t'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire de voir avec les yeux du cerveau. Je crois que c'était le 17 février 2008, j'ai appris à la radio, j'avais été dans les quartiers nord de Marseille à l'époque, la mort de l'acteur qui a joué dans Les Dents de la Mer. C'est pour ça que c'est fait une petite allusion au requin. Dans Festin nu, dans French Connection, l'acteur Roy Scheider. Et comme quand j'entends des choses, je vois les mots qui apparaissent, donc j'ai vu son nom apparaître avec mon œil du cerveau. Mmh. Et c'est superposé tout de suite le nom de l'actrice Romy Schneider. Ça m'a fait... Enfin voilà, ça c'était plus fort que moi, c'est arrivé comme ça, et c'est à partir de cette, on va dire, bizarrerie neuro-cognitive que ce projet est parti. C'est-à-dire, je me suis dit, ce sont deux acteurs, un homme, une femme, les États-Unis, on va dire un peu l'Europe, l'Allemagne, la France. Je ne vais pas du tout m'intéresser à leur biographie parce que c'est relativement lourd. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de considérer leurs deux filmographies, mais vraiment de manière la plus exhaustive possible, et de les et d'en faire un monstre. C'est-à-dire, chaque personnage va se mêler en un seul être. Voilà, dans le petit extrait que je vais lire, je ne sais pas si je vais aller jusque-là, mais je dis que leur rencontre est monstrueuse. Ce qui fait que là, on se retrouve vraiment à partir d'un point de départ de déformation perceptive, on va dire. Je me retrouve avec un projet qui ne sera pas forcément un projet de publication écrite, mais j'aurais envie, moi, de prendre des scènes et d'en faire aussi des petites capsules, voilà, de danse, des créations sonores, des choses. Voilà, c'est vrai. Le côté plateforme et pluridimensionnel, on va dire, elle existe. Et ça, je suis très contente que ce livre se concrétise, parce que c'est à partir de lui que je vais rebondir. L'exhaustivité de regarder tous ces films, il n'y a pas de froideur là-dedans. C'est-à-dire qu'en discutant, je vais dire, tiens, je vais regarder un film, un autre, celui-là, celui-là, et ils vont se rencontrer. Donc c'est une rencontre infinie, voilà.
Et tu vas nous en lire un extrait.
Je vais vous lire le début de ce texte, donc, qui s'intitule « MN ». Sous ce masque, un autre masque, je n'en finirai pas de soulever tous ces visages. Aveu non avenu, Virginia Woolf, 1930. Et là, je me rends compte...
Que tu n'as pas la suite ?
Non, si. Ah. C'est extraordinaire.
Vous entendez les bruits de papier derrière.
Ah, c'est magnifique. Écoutez, je vais improviser ce que je pensais lire, le début du texte. Et suite à une lecture qui a eu lieu il y a 2 semaines pour le festival Oh ma parole à Marseille, mm-hmm. Je m'aperçois que les pages ne sont pas dans l'ordre. Eh bien, je saisis la balle au bon et je vais lire le texte comme il apparaît. État d'ignorance. État de rapprochement. Sculpture du négatif. MN. Leur rencontre est monstrueuse. Comment la voir ? Ouvrir le vêtement, entrebâiller, bâiller, dégrafer, arracher, entrouvrir. Ouvrir le vêtement, tenu, le savoir du corps de l'autre. Et pour savoir, dans la poitrine, dans le torse, dans le corps de l'autre. Ne pas ouvrir d'image, jamais. C'est sur son visage à lui que ça se passe. Il est une femme, il est caché sous une femme, sous sa peau, elle a un chemisier blanc opaque, elle l'ouvre. Elle a un chemisier blanc, elle l'arrache. Elle a une peau, elle l'ouvre. Elle a une peau, elle la déchire. Et sous sa peau, c'est sa peau à lui. Sous son visage à lui, le cigare qu'elle fume, le cigare qu'il fume, axe entre eux, qui fait la bouche, rictus, lèvres, au carré sourire animal. Ailleurs, pour la cigarette, pincée entre les dents, l'ignorance de la mâchoire dans le dos, ouverte. Il ne faudrait pas seulement déchirer la peau sous la chemise, l'ouvrir, pas seulement y glisser les doigts et serrer, y attraper la chair, mais remonter jusqu'à rencontrer l'encolure, rebrousser, retrousser, jusqu'à rencontrer la femme. La peau se soulève, part, les orifices ne tiennent plus rien. Dans l'histoire crue, elle aime les femmes. Dans l'histoire, laquelle ? Son histoire à lui, à elle, c'est le passage entre un monde et l'autre. C'est être à la frontière et osciller, regarder et sourire de chaque côté, regarder et pleurer. Et ça tourne sur cette frontière, autour de cet axe, ça tourne. Autour de cette frontière, celle de l'écran, plan, pan, vertical, face, à face, à face.
Merci Esther pour
Merci
cette lecture.
Mathieu.
Je t'ai coupé ? Non.
Pas du tout. Ah. Je pense qu'on a écouté et lu des choses. Voilà, c'est pas mal déjà. Il y a une quantité de choses qui s'accumulent.
Il y a une quantité de choses et de mots. Mais écoute, c'est une émission de dérive poétique. On va dire ça comme ça. Tu parlais de lecture à Marseille. C'est des choses que tu fais régulièrement ?
Oui, relativement.
Dans quel endroit est-ce que tu peux nous donner quelques indications, notamment pour les auditrices, auditeurs qui nous écouteraient et qui auraient des envies de sorties poétiques, par exemple ?
Alors là, j'ai
dans
rien...
la cité phocéenne.
Oui, non, j'ai fait des lectures pas mal avec le CIPM. J'ai lu un texte qui a été commandé par la revue Quoi ? Corps, objet, image, qui est une revue qui est une collaboration particulièrement fine et intéressante avec le TJP, le Théâtre Jeune Public de Strasbourg, qui a à la fois une revue et une radio. Donc j'ai fait une lecture dans les studios de la radio pour une émission en direct d'un texte qui s'appelle Punctum, qui travaille encore une fois sur cette histoire de perception avec une mise en page spécifique. Non, j'ai pas de... Voilà, j'ai des ateliers d'écriture à prévoir.
C'est l'occasion d'en parler.
Oui, et un livre à finir pour le mois de novembre pour lequel j'ai eu une bourse.
Très bien.
Du Centre National du Livre. Donc mon été va être consacré à un projet qui s'appelle Inktof, les portefeuilles.
Ok. Quelques mots dessus ou c'est
avec surprise? Avec plaisir, ah. Oui. Je pense qu'on va encore recroiser quelques thèmes. En fait, mon oncle était atteint de syllogomanie, donc c'est un mot qui est aussi désigné de manière plus, comment dire, familière par le syndrome de Diogène. Ce sont des personnes qui accumulent des objets, parfois insignifiants, dans des sacs, un trombone, voilà. Et j'ai retrouvé, à son décès, j'ai retrouvé 6 portefeuilles, donc il y a à peu près 250 documents dedans. C'est quelqu'un qui était... qui s'intéressait à Deligny, qui était féministe, qui avait un esprit très actif, mais qui vivait dans la pauvreté. C'est à partir de ces portefeuilles que je déploie comme une plaque tournante. En fait, je vais rentrer dans sa peau à partir de documents qui sont dans des objets qui restent avec nous au quotidien. Voilà.
Donc résidence d'écriture cet été, tu parlais aussi d'ateliers d'écriture, donc ça veut dire que tu proposes à des gens, à du public de venir, ça peut être l'occasion d'en parler à la radio.
Oui, en ce moment, j'ai envie de faire des passerelles entre l'enseignement à l'école de paysage et comme j'ai fait les Beaux-Arts avec Locus Sonus. Je rencontre aussi l'école par exemple d'Art de Digne, les Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, je reprends contact avec ces écoles pour qu'il y ait des passerelles fructueuses, en fait, l'endroit de la création, de l'écoute, de l'espace public, et toute cette parole autour de la neurodiversité. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment un moyen de faire sortir ça, de le mettre au jour, d'une manière, avec la voix, avec le corps.
Est-ce qu'il y a des rendez-vous dans des librairies ou... Non, tu n'as pas d'atelier d'écriture prévu bientôt.
Non, je crois que là, vraiment, je me mets en sorte d'hibernation d'été pour écrire ce projet des portefeuilles.
D'accord, j'ai cru que tu parlais d'ateliers d'écriture à venir, dans le sens où tu as déjà fait des ateliers à Fort-Calquier, non. Marseille.
Ah, j'en ai fait à Fort-Calquier, oui, avec la...
C'est pas à la Carline,
notamment. Si, à la Carline, oui.
C'est pas d'actualité pour l'instant. On annoncera prochainement, quand ça sera le cas, sur
nos... Mais avec plaisir, oui, les ateliers dont je parlais dans l'établissement scolaire, c'est vraiment des envies de travail pédagogique. Voilà.
Eh ben merci Esther d'être venue dans les studios de Fréquence Mistral.
Merci beaucoup Mathéo, merci aux auditeurs.
Nous avons écouté. On a commencé à épuiser un petit peu cette matière de mots, mais il en reste encore beaucoup. Nous invitons les auditeurs, auditrices à aller voir sur tes divers blogs. On mettra des références sur notre site.